En coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le mercredi 13 juin 2012, à l'occasion du tricentenaire de la mort de Giovanni Domenico Cassini, le Bureau des Longitudes a organisé une journée scientifique autour de l'astronome français, né en 1625 et décédé en 1712. Giovanni Domenico Cassini s'est investi dans l'étude du système solaire de la Terre jusqu'au Soleil. Il a découvert des objets et des phénomènes tels qu'un certain nombre des satellites de Saturne ou encore la lumière zodiacale. Membre associé de l'Académie royale des sciences en 1669, on lui doit notamment le calcul de la distance Terre-Soleil, les longitudes terrestres ou encore une cartographie de la Lune. Consulté par Colbert sur la construction de l'Observatoire de Paris, il s'y installe en 1671 et participe à la mesure de la méridienne de l'Observatoire. Le Bureau des Longitudes lui rend donc un bel hommage avec ce cycle de conférences. Agnès Fienja est astronome adjoint à l'Observatoire de Besançon et spécialiste des éphémérides planétaires. Elle travaille entre autres avec le CNES pour l'analyse des exploitations des données de navigation spatiale. Elle est également impliquée dans la préparation du programme Gaïa. Elle évoque ici la détermination des distances dans le système solaire et les différentes techniques utilisées pour déterminer ces distances. Retrouvez dès maintenant la conférence d'Agnès Fienja qui s'est déroulée à la Fondation Del Duca.
Je ne vais pas faire un historique de la détermination des distances depuis Cassini jusqu'à maintenant. J'avoue que en une demi-heure, ça serait beaucoup trop court. Et puis, je dépasserai largement mes domaines de compétences. Donc, le plan de ma présentation, en fait, je vais surtout tâcher de vous parler, en fait, des évolutions récentes qui ont eu lieu sur l'estimation des distances dans le système solaire. Je vais bien sûr profiter de l'occasion pour parler de ma paroisse, donc de vous présenter, en fait, les éphémérides planétaires qu'on développe à l'Observatoire de Paris et à Besançon, qui sont, en fait, une des références mondiales dans ce domaine. Et puis, je vais vous présenter un peu les différentes techniques qu'on a à l'heure actuelle pour mesurer les distances dans le système solaire. Et puis, si on a le temps, les différentes applications, résultats scientifiques, en fait, qu'on a obtenus par l'exploitation de ces mesures, puisqu'en fait, les éphémérides ne sont pas uniquement un outil ou une solution mathématique qui peut être utilisée pour plein de choses, pour, par exemple, prévoir les transits de Vénus, mais elles ont aussi un intérêt scientifique et l'exploitation, justement, des mesures de distance peuvent servir dans beaucoup de domaines, notamment en physique fondamentale pour des tests de gravitation, par exemple. Alors donc, en fait, malgré ce qu'on peut penser, en fait, l'accès à la mesure directe des distances dans le système solaire, c'est des mesures qui sont très récentes, en fait, qui datent vraiment, donc tout à l'heure, on a vu passer 1957 pour le premier Spoutnik. Donc, en 58, on a donc la première antenne qui est mise en service, c'est celle que vous voyez là, en fait, c'est DSS-11 qui se trouve dans le désert du Mojave à Goldstone, en Californie. Donc, c'est la première antenne qui a servi, en fait, à suivre et à traquer les deux sondes Pioneer 8 et 9. Et puis en 1960, donc c'est le début des tirs radars sur directement à la surface des planètes, et c'est donc juste après en fait la fin de la Deuxième Guerre mondiale où justement les techniques de radar avaient été développées qu'on a eu des applications sur les mesures de distance directe dans le système solaire. Et en fait, avant cette période-là, eh bien la mesure de distance se faisait via des mesures angulaires. Soit donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est une image en fait qui a été faite au moment du transit de Vénus au début du siècle, donc à l'USNO, donc 1898. Enfin bref, voilà, je crois que c'est ça. Donc c'est une plaque photo en fait qui a été prise à l'USNO au moment du transit de Vénus. Et puis donc c'était donc les transits qui servaient essentiellement à la mesure de l'unité astronomique, à sa définition. Et puis donc via l'astrométrie optique, donc soit par des images par des télescopes, soit beaucoup plus souvent par des observations méridiennes. Par exemple là vous avez là encore l'instrument méridien de l'US Naval Observatory qui a donc servi à observer pendant pratiquement plus de 70 ans des passages de planètes. Et en fait, ces mesures permettaient d'avoir une bonne précision temporelle, parce qu'à côté, en fait, de ces mesures angulaires, on avait des bonnes horloges, donc on avait des garde-temps très précis. Donc on avait aussi de bonnes mesures de période. Et donc c'est via ces mesures angulaires et ces mesures de période qu'on arrivait, en fait, à mesurer, à avoir une estimation indirecte, donc des distances dans le système solaire. Et ce que vous pouvez voir là, en fait, c'est un tableau qui vous donne rapidement l'évolution des meilleures estimations des positions des planètes donc en angle et en distance par rapport à la Terre, sur trois générations d'éphémérides planétaires différentes. Donc vous avez Le Verrier, donc toute fin du 19e, donc qui a eu connu plusieurs évolutions. DE200, en fait, qui date fin des années 80, donc qui a été développé au JPL, justement comme outil pour préparer et pour piloter toutes les sondes spatiales qui étaient en vol à ce moment-là. Et puis INPOP-10A, qui est notre avant-dernière solution. Donc vous voyez en fait qu'on avait des incertitudes sur la position, sur la distance Terre-Mercure, Terre-planète intérieure de l'ordre d'une centaine de kilomètres avec le Verrier, et que là on est de l'ordre de quelques mètres. De la même façon, pour les planètes extérieures, c'est encore pire, hein, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, on a des incertitudes très très importantes, mais c'est normal puisqu'on n'avait pas du tout accès à des mesures directes de distance. Donc on a connu un pas géant en fait entre la fin des années 80, même si vous prenez DE200, entre la fin, début des années 90 et puis l'époque actuelle, on a vraiment commencé à aller beaucoup en avant dans la connaissance et la mesure des distances. Alors je vais faire une parenthèse sur l'unité astronomique. Puisqu'on parle de distance, en fait, l'unité astronomique, pendant jusqu'à encore très très récemment, jusqu'à encore maintenant, à vrai dire, n'a pas connu d'évolution dans sa définition. Donc, ce que je vous présente là, ce que vous voyez ici, en fait, sur les références entre l'UAI 1939-1976, c'était donc la définition, et c'est toujours la définition en cours de l'unité astronomique. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est une définition qui est directement liée aux mesures de période et angulaire. Et de l'autre côté, vous avez la définition usuelle que tout le monde connaît, qui est cette espèce de distance moyenne Terre-Soleil, ou aussi bien une définition de la parallaxe, en fait, qui est l'outil qui va utiliser la définition de l'UA, donc cette espèce de distance que vous voyez là, en fait, donc on prend cette espèce de distance moyenne pour pouvoir justement mesurer les distances aux étoiles. Et en fait, justement, cette distance, cette unité astronomique étant directement liée aux mesures angulaires, c'est pour ça qu'elle a été définie comme ça, puisque, comme je vous l'ai dit, jusque dans les années, jusqu'à encore récemment, le seul moyen de pouvoir avoir accès à cette estimation de distance était via les mesures de période et les mesures d'angle. Et donc, en fait, si vous avez suivi ce que je venais juste de dire précédemment, du fait qu'on a connu une très grande amélioration et qu'on ait accès maintenant directement à cette mesure de distance, on a donc évolué vers un changement de paradigme sur l'unité astronomique. Vous avez dans la salle une des personnes qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et donc les questions, je vous renverrai à Madame Capitaine. Alors, pour revenir donc au sujet qui nous intéresse principalement, enfin sur lequel je vais m'orienter principalement dans cet exposé, donc il y a trois éphémérides planétaires qui existent à l'heure actuelle, donc qui permettent en fait, qui sont ces outils qui, d'une part, permettent donc de faire, de positionner les planètes dans le système solaire et donc de positionner les sondes autour de ces planètes. Alors la première d'entre elles, c'est une éphéméride américaine qui est développée donc au Jet Propulsion Laboratory. Il y a plusieurs versions. Ce sont des éphémérides qui sont typiquement utilisées pour la navigation des sondes spatiales. Vous avez une version donc russe qui est très proche de DE, enfin de la solution américaine. Et puis vous avez donc nos éphémérides donc INPOP sur lesquels je vais plus m'étendre. En fait, qui ont été développés à l'Observatoire de Paris à but principalement scientifique, c'est-à-dire qu'on voulait avoir un outil qui nous permette de calculer très précisément la position des planètes dans le système solaire, aussi bien en termes de position angulaire que de distance, mais aussi un outil qui nous permette de faire de l'exploitation scientifique de ces mesures de distance et d'angle. Cette éphéméride qui va être utilisée pour la mission Gaïa, elle est très adaptable, très modélisable, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui nous ont demandé de faire des adaptations pour leurs travaux de recherche et on les a fait. Cette éphéméride en fait aussi sert à une version sur très long terme et permet justement l'étalonnage des paléoclimats sur 1 million d'années, donc sur cette base-là. Et puis on a pu démontrer en fait la faisabilité d'un ajustement de la masse du Soleil plutôt que de l'ajustement de l'unité astronomique, puisque si vous avez bien vu la définition de l'UA telle qu'elle est donnée jusqu'à l'heure actuelle, puisqu'en fait le paradigme de changement de l'UA se fera cette année à l'UAI, en fait l'unité astronomique change d'une éphéméride à l'autre. Et donc à chaque fois qu'on a une nouvelle éphéméride planétaire qui est établie, en fait l'unité astronomique a sa valeur qui change. Alors vous ne l'avez sans doute pas noté, parce qu'en fait ce sont des valeurs, le changement est de l'ordre de quelques centimètres, mais elle change, ce qui fait qu'en fait vous avez le cas d'une unité qui est variable. Donc, c'est qui peut choquer beaucoup de monde, dont nous. Et donc, on s'est dit que vraiment, une échelle, une unité qui change, c'est pas possible. Donc, on s'est dit qu'en fait, il valait beaucoup mieux, en fait, fixer cette unité pour que les choses soient beaucoup plus claires pour vous, utilisateurs, pour les astrophysiciens qui s'en servent pour calculer les parallaxes, par exemple. Et que, à la place de faire varier l'unité astronomique pour chaque éphéméride planétaire, on redéfinisse, on recalcule la masse du Soleil, ce qui est beaucoup plus logique, puisque la masse du Soleil est quand même le principal objet perturbateur dans le système solaire. Et donc, c'est ce qui a été fait avec les diverses versions d'INPOP. Donc les éphémérides planétaires, en fait, ce sont toutes des intégrations numériques des équations du mouvement à l'heure actuelle. Vous savez qu'en fait, pendant longtemps, il y a existé des éphémérides planétaires qui étaient analytiques, qui étaient développés à l'Observatoire de Paris. Et en fait, au moment où on a utilisé ces éphémérides analytiques pour les confronter justement aux observations spatiales, on s'est aperçu qu'en fait, malheureusement, elles avaient une précision qui ne permettait pas de pouvoir être comparées aux observations spatiales. Et notamment, vous le verrez, aux estimations de distance Terre-Mars qui sont à l'heure actuelle les estimations de distance les plus précises pour les planètes, j'entends, on verra pour la Lune. Et donc on a changé en fait notre approche et on est passé donc sur des éphémérides planétaires numériques. Donc c'est une intégration numérique des équations du mouvement. Donc on tient compte donc des 9 planètes du système solaire. Je suis désolée, j'ai Pluton encore dans mes affaires, donc ça va me faire 9. La Lune, donc on verra un petit peu. Donc on modélise l'orbite, mais bien sûr tous les problèmes liés à la libration de la Lune. On tient compte des astéroïdes de la ceinture principale. Vous verrez que c'est un des problèmes que l'on a actuellement pour la modélisation de la distance Terre-Mars, c'est de tenir compte de perturbations de tous ces astéroïdes qui sont en orbite, dont les tailles varient en fait d'une petite planète à vraiment un débris et dont on ne connaît pratiquement pas les masses. Et on tient compte aussi donc le GR que vous verrez souvent, c'est la relativité générale, de l'aplatissement du Soleil. Et en fait, donc, toutes ces éphémérides sont ajustées aux observations et sont disponibles donc aux utilisateurs que vous êtes sur des sites web de l'IMCCE, par exemple, sous forme de polynômes de Tchebyshev que vous pouvez récupérer. On fournit aussi les codes qui permettent de calculer les positions sur votre ordinateur. Et voilà. Donc, alors, par contre, une des caractéristiques principales de ces observations, c'est qu'elles sont très dépendantes de la navigation spatiale. Et c'est un des éléments clés, en fait, de la mesure des distances dans le système solaire actuellement, comme vous l'avez tout de suite compris dans mes deux premiers transparents. C'est qu'en fait, on est tout à fait lié aux missions spatiales qui sont envoyées dans le système solaire. Donc ça, en fait, c'est un tableau rapide qui vous décrit un peu les différentes évolutions des éphémérides. Un point particulier, donc, en fait, c'est qu'on a, donc, à partir de cette solution INPOP 10A, on est passé, donc, à un ajustement de la masse du Soleil en lieu et place de l'ajustement de l'unité astronomique. Donc, à partir de 10A, pour nous, on considère l'unité astronomique comme une vraie unité, comme un vrai facteur d'échelle, donc fixe. Et par contre, on ajuste la masse du Soleil. Alors, les différents types d'observations. Donc, vous avez différents types d'observations qui sont déjà liées. Donc, tout ce qui est les petites lignes avec les étoiles sont directement liées au suivi de sondes spatiales. Donc, que ça soit du VLBI, ce qu'on appelle le flyby, ce sont des données de survol ou le range, mais je vais vous expliquer ça en détail dans 3 minutes. Vous voyez, en fait, que plus de 56% en fait des données qui sont utilisées pour calibrer les éphémérides planétaires, ce sont des données d'origine spatiale. Vous avez quelques données directement de tir radar à la surface des planètes. Et puis, vous avez des données optiques. En fait, ces données optiques, ce sont toutes les données anciennes, les observations anciennes qui ont été faites soit par instrument méridien, comme on a vu l'image de l'instrument méridien de l'USNO tout à l'heure, soit sur des plaques photo, soit sur différentes méthodes d'observation optique que l'on garde, en fait, dans ces éphémérides, parce que même si on a une très bonne contrainte avec les données spatiales, il n'en reste pas moins que vous avez des planètes comme Uranus, Neptune, Pluton, qui ont des périodes très très longues, et que pour déterminer correctement leur orbite, et donc les distances à la Terre, il nous faut, en fait, avoir des observations très anciennes, et c'est pour ça qu'en fait, dans INPOP, mais dans toutes les éphémérides planétaires, on a des observations de 1913, même 1898, qui sont les plus anciennes observations que j'ai, vont côtoyer les observations spatiales les plus modernes. Il faut combiner tout ça pour arriver à avoir un tableau complet, en fait, de la dynamique de toutes ces planètes. Et puis, bien sûr, la Lune, parce qu'il est difficile de parler des estimations de distance dans le système solaire sans parler du laser Lune et de l'aventure qui marche, en fait, sur la Lune, c'est le cas de le dire, depuis les années 60, fin des années 60. Donc, je vais commencer par ça. Donc, les observations laser Lune, vous savez que, donc, avec les missions Apollo, en fait, des réflecteurs ont été déposés à la surface de la Lune. Et depuis cette époque, en fait, donc, depuis pratiquement plus de 40 ans, en fait, des tirs laser Lune sont effectués très, très régulièrement par différents sites sur Terre, sur, donc, les différents réflecteurs qui sont ici soulignés à la surface de la Lune. Donc, ici, vous voyez, en fait, le laser en marche, donc les différents lasers. Donc là, vous avez celui de McDonald's et ici, c'est des lasers d'Apollo, une station américaine qui a été mise en service il y a très peu de temps. Et en fait, donc, ces tirs laser permettent de mesurer le temps aller-retour. On compte, on chronomètre le temps aller-retour du signal et ça nous permet d'avoir une estimation de la distance entre le réflecteur à la surface de la Lune et l'antenne laser. Comme je vous le disais, on a de très nombreuses données depuis 40 ans, c'est le graphique que vous voyez, donc depuis 1968 jusqu'à maintenant. On a des incertitudes, vous voyez qu'on a des précisions qui sont de l'ordre du centimètre, donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, en fait, on a une limite, c'est le trait que vous voyez ici qui est 5 cm. Donc vous voyez que ici, ce sont les différences entre les modèles dynamiques qu'on utilise pour calculer le temps aller-retour du signal et les observations. Et vous voyez que les modèles dynamiques, à l'heure actuelle, sont précis au centimètre près sur pratiquement 20 ans maintenant. Sur le laser lune. Dans ces modèles dynamiques vont beaucoup agir, bien sûr, les modèles de lune interne et aussi de géophysique de la Terre. Et on arrive donc justement à une précision de l'ordre du centimètre. Je prendrai quelques secondes pour préciser qu'en France, on a la chance d'avoir un site qui est le site de Calerne, donc à l'OCA, donc près de Grasse, où en fait se situe le deuxième, le second, le premier, selon l'ordre. Station laser lune, en fait, les plus performantes au monde. Donc Calerne, en fait, fait des observations de tir laser lune depuis pratiquement le début de l'aventure en 68, avec une précision qui est toujours constante, qui nous permet d'avoir des performances de l'ordre du centimètre sur la distance Terre-Lune. Et à côté, l'autre grand site, en fait, très moderne, c'est donc le site d'Apollo aux États-Unis. Donc, c'est l'image que vous voyez là. En fait, donc, c'est un télescope de 3,50 m. Donc, vous avez le laser, en fait, qui est juste ici. Et donc, qui émet son signal. C'est l'image qu'on a juste vue avant. Et puis, donc, le signal est réfléchi par les réflecteurs à la surface de la Lune. Et il est réfléchi en direction, donc, de ce télescope de 3,50 m qui bénéficie, en fait, d'une installation d'optique adaptative. Et donc, qui permet de collecter beaucoup plus, en fait, de photons que ce que ne peut le faire Calerne, par exemple. Et donc, avec cet outillage en outil adaptatif sur le 3,50 m, l'équipe, en fait, d'Apollo prévoit d'avoir des mesures de l'ordre du millimètre sur la surface Terre-Lune. Bon, pour le moment, vous voyez, en fait, sur le graphique qui est juste là, on est dans le cas de figure où on est limité, en fait, plus par le modèle dynamique qui nous permet de calculer la position Terre-Lune que par les observations. Donc, on a encore du travail théorique à faire pour arriver à, justement, bénéficier de ces quelques millimètres de précision sur la distance Terre-Lune. Alors, les autres types d'observations qu'on utilise pour mesurer la distance dans le système solaire, ce sont donc des observations que j'appellerais de déduites de suivi orbital, c'est-à-dire qu'on a une sonde qui voyage dans le système solaire, elle peut être en phase interplanétaire, c'est-à-dire qu'elle est entre deux planètes, ou elle peut être en orbite autour de la planète qu'elle est censée étudier. On émet en fait un signal depuis la Terre qui va être capté par la sonde, puis réémis par la sonde en direction de la Terre, et c'est cette mesure de temps aller-retour du signal entre la Terre, l'antenne émettrice, la sonde qui va multiplier, qui va capter ce signal, le multiplier et le réémettre, que nous faisons donc nos estimations de mesure de distance. Donc c'est une mesure de temps aller-retour. Alors cette mesure de distance, de temps aller-retour entre la planète et la Terre va bien sûr être liée à notre connaissance de l'orbite de la sonde, puisque ce qu'on mesure d'abord c'est la distance antenne-sonde-sonde-antenne, et nous ce qui nous intéresse c'est la distance planète-Terre. Donc on est lié directement à la connaissance de l'orbite de la sonde. Mais d'un autre côté, en fait, on a de très nombreuses données. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un exemple, en fait, de données, de mesures, de temps aller-retour obtenues sur Mars Global avec trois différentes orbiteurs, donc sondes en orbite autour de Mars. Donc, vous avez Mars Global Surveyor, Odyssey et Mars Express. Donc, au total, on a plus de 50 000 observations sur un peu plus de 10 ans. Donc, on a beaucoup d'observations. Et vous voyez que ces observations, en fait, permettent de faire une mesure de la distance Terre-Mars à environ 2 mètres près sur 30 ans. Donc, ce qui permet de pouvoir justement faire travailler sur la dynamique de Mars de façon très poussée grâce à ces observations-là. Ce type d'observation existe donc pour Mars, puisque comme vous le savez, Mars a été intensivement exploré depuis 30 ans. Il y a un pléthore de sondes qui sont en orbite autour de Mars. De Vénus aussi, puisqu'on a eu la chance d'avoir deux sondes qui ont visité Vénus, Magellan vers 94 et puis Vénus Express qui est toujours en orbite. Et puis Mercure. Donc avec l'arrivée de la sonde Messenger, qui est arrivée en orbite autour de Mercure l'année dernière, et pour lesquelles on est en train de travailler et de traiter les données justement de suivi de distance de la sonde Messenger. Donc les effets en fait dont il faut tenir compte en fait pour pouvoir justement modéliser ces temps de distance aller-retour et pouvoir justement avoir cette précision de l'ordre de quelques mètres sur 30 ans, c'est les effets liés à la couronne solaire, puisqu'en fait selon la position de la sonde dans le système solaire par rapport à la Terre, il peut se trouver qu'en fait la sonde se trouve très proche ou assez proche ou passe même derrière le Soleil. Donc dans ces cas-là, on a de fortes interférences dues à la couronne solaire. Il faut bien sûr tenir compte des effets de relativité générale, le fait que le Soleil est un potentiel fort, donc on a une action de la relativité générale à modéliser, et bien sûr de l'atmosphère terrestre. Vous verrez d'ailleurs que les deux premiers points en fait de modélisation de ces effets, qui sont donc liés au plasma solaire et à la relativité générale, donc à la gravité, sont des points aussi d'exploitation scientifique de ce type de données. Et puis bien sûr, il faut donc avoir une orbite de la sonde autour de la planète qu'on étudie très précise pour qu'on puisse pouvoir avoir des estimations du temps aller-retour précis. Et bien sûr, il faut qu'on puisse connaître la position des stations au sol de façon précise. Et c'est pour ça qu'on compte beaucoup sur nos collègues géodésiens pour nous établir des repères ITRF performants. Un autre type de données en fait qu'on utilise aussi, c'est même si la mesure de distance est moins évidente, c'est des données VLBI. Donc le monsieur précédent vous a parlé justement du VLBI à visée géodésique. Donc en fait là, on va les antennes VLBI vont observer. Il arrive dans certains cas qu'en fait une sonde qui soit en orbite autour d'une planète passe à proximité angulaire d'une source ICRF, donc d'un quasar lointain qui sert justement de borne pour pouvoir mettre en place les repères de référence de l'ICRF. Et dans ce cas-là, en fait, on peut faire du positionnement relatif de la sonde, de la planète et par rapport à cette sonde ICRF, le tout étant observé par les antennes radio de VLBI. Et donc, grâce à cette position relative, on arrive à positionner la planète par rapport à cette source ICRF et donc connaître, avoir un positionnement très précis de la planète. Et quand je dis précis, c'est de l'ordre du mass. Alors le mass, c'est le milliseconde de degré, donc 10-3 secondes d'arc. Donc c'est des positionnements très précis. Alors on n'a que quelques points, parce qu'en fait, ça n'arrive pas très souvent, vous pouvez l'imaginer, surtout quand on sait qu'en fait, les sources quasars qui servent justement à l'ICRF sont assez peu nombreuses. On a peu de données, mais elles sont de très grande précision. Ces données existent pour Mars, pour Vénus, pour Jupiter, ce qui est un point très important. Et pour Saturne. Saturne notamment, parce que pour faire ce genre de manip, il faut qu'il y ait une sonde, en fait, qui soit en orbite autour de ces planètes. Donc, pour Jupiter, ça a été la sonde Galileo qui a pu, justement, passer au voisinage de Jupiter avec une source quasar proche. Et pour Saturne, ça a été la sonde Cassini, justement, qui nous a permis, en fait, de pouvoir positionner la planète très précisément de façon angulaire. Et là, on retrouve les mêmes effets perturbateurs quand on modélise ce genre de signaux VLBI. Alors, le quatrième type de données liées à la mesure de distance dans le système solaire, ce sont les données de survol. Donc là, en fait, c'est un cas beaucoup plus général que les observations VLBI. Et en fait, c'est le fait que, comme vous le savez, toute sonde envoyée dans le système solaire sert, en fait, de la technique de fronde gravitationnelle ou d'assistance gravitationnelle pour pouvoir aller plus loin dans son trajet. Par exemple, la sonde Messenger, avant d'arriver à Mercure, elle a fait 2 survols de la Terre et 2 survols de Vénus avant de pouvoir atteindre Mercure. Et donc ces assistantes gravitationnelles ont un intérêt pour nous qui utilisons la navigation de sondes pour à but d'étude du mouvement des planètes, c'est qu'en fait quand elles passent très près des planètes, justement, elles deviennent sensibles au potentiel gravitationnel des planètes, c'est bien pour ça qu'on les utilise d'ailleurs. Et du coup, on peut mesurer en fait grâce au suivi de navigation de la sonde, justement la distance de cette sonde par rapport aux planètes. Et donc ça nous permet de faire quelques passages très courts, mais une assez grande précision de localisation de la planète par rapport à la sonde. Et en fait, ces données sont d'autant plus précieuses que ce sont les seules données que l'on a pour estimer la distance Terre-Uranus et Terre-Neptune à l'heure actuelle. C'est-à-dire que la distance, les mesures directes de distance pour Terre-Uranus, Terre-Neptune sont données à partir des données de survol, en fait, de... L'un, ça doit être Voyager, et l'autre, ça doit être un Pionier. Donc, sont passés très proches d'Uranus et Neptune, qu'on a pu observer à ce moment-là, et ce qui permet de faire la seule et unique estimation de distance directe d'Uranus et Neptune. Pour la simple et bonne raison, en fait, qu'Uranus et Neptune, vous pouvez pas les observer avec du radar, vu que ce sont des planètes gazeuses, et qu'il y a très peu, en fait, de sondes qui sont passées au voisinage de ces planètes-là. Voilà. Alors, en termes de précision, vous voyez, en fait... Sur le graphique de gauche, en fait, ce sont des ellipses de précision que l'on obtient en tenant compte soit uniquement du Doppler, c'est-à-dire de la mesure de variation de vitesse de la sonde, soit en ajoutant les estimations de distance et en ajoutant le VLBI en vert. Donc vous voyez en fait que ces orbites se rétrécissent et qu'on obtient des précisions très importantes. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est plus le graphique de droite qui vous donne en fait une évolution de la précision du positionnement des sondes qui sont en orbite autour des différentes planètes que vous voyez ici, avec le temps. Et vous voyez en fait que au début de l'aventure spatiale, on avait des positionnements qui étaient de l'ordre de 1 million de mètres. Donc ça fait à peu près un UA pour Vénus. Et puis à l'heure actuelle, donc on est de l'ordre plutôt du quelques mètres sur les observations de Mars, donc de Mars Express ou de toutes les orbiteurs autour de Mars. Donc on a vraiment gagné un facteur très important. Et en fait, cette amélioration dans la précision vient du fait qu'on a combiné ces différents types d'observations dont je vous ai parlé notamment. Et puis on a amélioré la qualité des antennes radar, on a introduit l'informatique. Donc toutes ces différentes avancées technologiques ont permis justement une amélioration importante dans la mesure de distance spatiale. Donc là, je vous remets en fait les chiffres pour garder en mémoire. Donc la précision actuelle que l'on obtient grâce au suivi orbital, donc au niveau angulaire, ça va être entre 1 et 10 milliarcsecondes. Et par contre, en mesure de distance, on est entre 1 et 50 mètres de précision, selon les planètes et selon les sondes. Alors pour en revenir à InPop, donc vous avez ici les différentes évolutions qui ont lieu d'une solution à l'autre, et puis en termes d'observation plus ou moins, d'utilisation d'observation selon les différentes versions. Donc avec une domination de plus en plus grande en fait des observations justement déduites des suivis des sondes spatiales. Là, vous avez une idée en fait de la précision que l'on a donc sur justement les mesures de distance de planètes. Donc on est à l'ordre de quelques mètres en fait. Je vais sauter directement aux problèmes qui peuvent refléter aussi l'exploitation scientifique que l'on peut faire des mesures de distance. Alors comme vous le voyez ici, en fait, les distances les plus précises sont déterminées à partir donc d'orbiteurs ou de sondes qui orbitent autour de Mars et des planètes intérieures. Alors vous le voyez dans ce graphique, ce que vous savez, c'est qu'en fait, on est entouré d'objets tout à fait inconnus et tout à fait nombreux et qui ont un impact sur ces orbites des planètes intérieures importants. Donc la question que l'on a, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut modéliser toutes ces perturbations? Quel peut être l'impact sur ces distances? Sachant qu'en fait, le seul impact qu'on en ait vraiment, en fait, ce sont les accélérations. C'est ce qui est induit par chacun de ces astéroïdes. Et tout ça étant projeté sur une seule distance mesurée, qui est la distance Terre-Mars. Donc en fait, ça nous fait des effets qui sont très combinés. Et puis on s'en sort comment? On s'en sort en fait en utilisant des techniques de plus en plus complexes et en essayant de déterminer de plus en plus de masse d'astéroïdes. Donc ce qui veut dire en fait qu'à partir de ces estimations de masse, de distance en fait entre la Terre et puis Mars par exemple, le fait qu'on puisse avoir une précision de l'ordre de quelques mètres permet aussi d'inverser en fait cette donnée et de pouvoir aller plus loin dans la connaissance des masses d'astéroïdes. Donc à l'heure actuelle, en fait, on détermine à peu près 180 masses d'astéroïdes à partir de ces distances. Et dans ces 180 masses, on en a à peu près une cinquantaine qu'on a validées par d'autres méthodes. On a aussi d'autres tests qu'on a effectués, en particulier en utilisant les estimations de distance qui sont faites au moment des conjonctions solaires. Et on a utilisé ces distances de façon à pouvoir justement améliorer notre connaissance de la couronne solaire. Et puis en fait, je terminerai en parlant des tests de gravitation que l'on effectue justement à cause de cette amélioration qui est permanente sur la connaissance et les mesures de distance dans le système solaire, donc que ça soit aussi bien à travers le laser lune que le suivi des sondes spatiales et donc ces distances qui sont de l'ordre de quelques centimètres pour le laser et quelques mètres pour Mars par exemple, et qui font en fait que le système solaire est vraiment un laboratoire qui reste encore idéal pour des tests de gravité en champ faible. Et donc avec INPOP, on a donc utilisé ces données-là pour pouvoir justement aller plus loin dans les estimations et les tests de relativité. Et je conclurai là-dessus en fait en disant que grâce à ces mesures de distance très précises, on arrive à amener des contraintes sur des théories alternatives de gravité, aussi bien par des déterminations, ils ont des contraintes à porter sur les paramètres PPN, bêta, gamma, et aussi sur les avancées séculaires des orbites des planètes, où là aussi on a amené des contraintes fortes, justement grâce à cette amélioration constante de la détermination des distances. Et puis voilà, donc on va continuer tout ça sur d'autres missions. Voilà.
Canal Académie vous propose cette retransmission de la conférence d'Agnès Fienga, astronome adjoint à l'Observatoire de Besançon. Le thème de son intervention portait sur la détermination des distances dans le système solaire, une conférence qui avait lieu à l'occasion de la journée scientifique 2012, organisée par le Bureau des Longitudes en l'honneur de Giovanni Domenico Cassini. Retrouvez en fin d'article le diaporama qui accompagnait cette présentation. Je vous invite également à écouter les autres retransmissions des conférences tenues lors de cette journée scientifique sur le site de Canal Académie dans la rubrique « En colloque ». Sachez que les conférences du Bureau des Longitudes sont gratuites et accessibles au public. Pour en connaître le programme, rendez-vous sur le site www.bureaudeslongitudes.fr.